Nous avons attendu 10 jours depuis l'ascension. Et en ce jour de Pentecôte, nous fêtons l'événement lors duquel les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est aussi, on oublie parfois, la fête de la naissance de l'Église. Puisque ce jour-là, il nous est dit que 3000 personnes furent baptisées. Et on voit, dans le début de Actes, la vie en communauté des premiers chrétiens. La Pentecôte, c'est donc la fête du Saint-Esprit, et c'est la fête de l'Église. Et justement, si l'Église est une réalité bien concrète, qui est assez facile à définir et à entrevoir, le Saint-Esprit, quant à lui, qui est la troisième personne de la Trinité, est souvent délaissé. Et il reste une réalité, malgré tout, assez abstraite, il faut le dire. Et si les chrétiens sont d'accord pour dire que le Saint-Esprit est une puissance surnaturelle dans la vie du croyant et dans l'Église, on est peut-être tous un peu embêtés lorsqu'il s'agit d'expliquer concrètement quel est l'impact d'une vie conduite par l'Esprit-Saint. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de ce culte parce qu'on a eu un bel aperçu de beaucoup d'éléments de cette vie remplie de l'Esprit-Saint. Et je vous propose ce matin de voir un texte qui nous donne un élément d'explication. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, verset 14. Et je lis dans la version second 21. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voici seulement un petit extrait qui est un condensé de ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui est justement le chapitre de cette lettre qui est particulièrement consacré au Saint-Esprit. Si on compte, le Saint-Esprit, dans ce chapitre-là, y est mentionné plus de 15 fois. Et si vous avez le temps, je vous inviterai vraiment à le relire, ce chapitre 8, à la maison en entier, puisqu'il développe vraiment en profondeur les aspects et de la présence de l'Esprit-Saint dans la vie du croyant. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de cette lettre aux Romains, le chapitre 8 marque un tournant. Dans les chapitres précédents, il est surtout question de la vie loin de Dieu, sous l'emprise du péché et de ses effets et conséquences. Et à partir de ce chapitre 8, il est fait mention de la transformation profonde de ceux qui sont libérés en Christ, ceux qui sont conduits par l'Esprit-Saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit-Saint, comme on le lit au verset 14 ici? Alors comme je l'ai dit, il faudrait lire tout le chapitre 8. Et justement, le début du chapitre 8 nous donne des éléments de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit-Saint? Ce sont des paroles merveilleuses. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc aucune condamnation. Le thème principal de ces premiers versets, c'est que l'Esprit-Saint nous libère de la loi du péché et de la mort. Être conduit par l'Esprit-Saint est synonyme de liberté. Et la lettre de Paul aux Galates reprend bien cette idée. D'ailleurs, sur de nombreux points, Paul reprend dans sa lettre aux Romains des éléments de la lettre aux Galates qui a été écrite plusieurs années avant la lettre aux Romains. Et je vous propose juste de lire quelques versets aussi au chapitre 5 de Galates. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. On retrouve ici des idées du texte qu'on a lu dans Romains 8. En Christ, l'homme, le chrétien, est l'homme le plus libre de la terre. Et on ne le dit pas assez. Et souvent, on ne le montre pas assez non plus. Et pourtant, combien de fois, moi le premier, j'ai tendance à m'enfermer dans des peurs, des interdits. Des interdits qui d'ailleurs souvent ne se trouvent même pas dans la Bible. D'ailleurs, dans la suite de cette lettre aux Galates, Paul dénonce justement les chrétiens qui continuent à pratiquer la circoncision parce qu'ils pensaient que justement en continuant la circoncision, c'était une manière d'être sauvé plutôt que par la foi en Jésus-Christ. Et Paul dira aussi, dans une autre lettre, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. » Cette liberté ne doit pas être mal comprise. Et je vous propose juste une illustration. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. Cette chèvre croyait que la liberté consistait à s'échapper de la chèvrerie, à aller courir dans la montagne, quitte à se faire manger par le loup. Et malgré les avertissements de son maître, elle préféra la liberté éphémère des grands espaces, plutôt que de rester en sécurité dans l'étable, malgré tout attachée et enfermée dans des barrières. Et puis, on connaît tous, même sans la connaître, on peut l'imaginer la fin de cette histoire. Malheureusement, la chèvre finit dévorée par le loup. Je lis juste Galates 5, toujours, cette fois-ci le verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Peut-être qu'Alphonse Daudet s'est inspiré de ce verset pour écrire son histoire, je ne sais pas. Tu as été libéré par Christ, mais n'en fais pas un prétexte. N'abuse pas de cette liberté. Cette liberté ne doit pas te laisser tolérer le péché dans ta vie et justement abandonner les exigences d'une vie de disciple. Être libre, ce n'est pas faire comme tu l'entends. Cela même lorsqu'un interdit n'est pas écrit dans la Bible ou pas exactement comme tu aimerais qu'il le soit écrit. Parfois on fonctionne comme cela. Et justement, après l'ascension, en l'absence du bon berger, Jésus est monté au ciel auprès de son Père. Nous sommes conduits désormais par l'Esprit Saint. Et être libre, ce n'est pas dire non à cette conduite et faire comme on le pense. Je continue toujours en parallèle la lecture de Galates 5, cette fois-ci au verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Nous risquons de mal comprendre la liberté. Lorsque nous croyons qu'être libre, c'est s'opposer et chercher l'autonomie. Il suffit juste de regarder les enfants s'opposer à leurs parents. Tu veux aller te promener ? Non. Tu veux manger ? Non. Tu veux aller te coucher ? Non. Tu veux dormir ? Non. Tu veux rester réveillé ? Non. On entend souvent « Ah, mais cet enfant grandit en s'opposant. Il apprend à devenir libre de cette manière. » Je crois que ce n'est pas vraiment vrai. Il est plutôt en train de trouver son autonomie, pas sa liberté. Pour être vraiment libre, la brebis ou la chèvre doit se laisser libérer de cette illusion, de cette fausse liberté, de pouvoir trouver son autonomie, de vouloir s'échapper. Et cela pourrait paraître tout à fait contradictoire. Mais une chèvre, une brebis, ne peut vivre la vraie liberté qu'en étant conduite par le berger. Être conduit par l'Esprit de Dieu est synonyme de liberté. Nous n'avons pas à avoir peur d'être conduit par l'Esprit Saint. Être conduit par l'Esprit de Dieu, il est donc aussi important de bien préciser ce que ça ne veut pas dire. L'année dernière, dans le cadre de mon ministère, auprès des jeunes individuellement, j'accompagnais justement un jeune qui avait vécu des choses très difficiles dans son passé et qui était dans une démarche de recherche vers Dieu. Et il y avait quelque chose qui le freinait dans cette recherche. Il avait l'impression que donner sa vie à Dieu était synonyme de devenir esclave de Dieu. Et justement, il avait été libéré de l'esclavage, de la dépendance à la drogue, et sa peur était qu'il devienne à nouveau esclave d'une nouvelle dépendance, même si c'était en l'occurrence ici Dieu. Et Paul, justement ici, dans le premier texte que je vous ai lu, dans Romains 8, nous donne une explication assez claire. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte. Il faudrait plutôt remplacer ici le mot crainte par peur. Parce que c'est bien le sentiment de peur dont il est question. Et justement, le mot en grec dans ce texte est phobos, qui a donné la phobie, la peur. Rien à voir donc avec la crainte de Dieu, qui elle est à l'inverse un profond respect face à la gloire et à la toute puissance de Dieu. Ici, il est question de peur. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que dépendre de Dieu conduit à la liberté, alors que l'indépendance à Dieu conduit à l'esclavage. Aux yeux des hommes, cette réalité peut paraître complètement illogique. Dépendre de Dieu amène à la liberté. Et pourtant, le premier problème que l'homme et la femme ont rencontré, c'était bien un désir d'indépendance. Le problème d'Adam et Ève, ce n'était pas seulement d'avoir mangé un fruit défendu, d'avoir désobéi à Dieu, mais c'était surtout d'avoir voulu vivre sans Dieu, loin de Dieu, sans avoir besoin de lui. Et depuis ce moment-là, le désir d'indépendance de l'homme l'a conduit à l'esclavage du péché. Et pourtant, depuis ce moment aussi, Dieu n'a cessé de proposer à sa créature de rétablir la relation brisée. Avec Abraham, avec le peuple d'Israël, par Moïse, Dieu est resté fidèle et a eu justement le désir de libérer l'homme de leur esclavage, jusqu'à envoyer son Fils Jésus, pour nous rendre réellement et pleinement libres. Jésus est non seulement le berger, mais il est aussi la porte des brebis, comme on le lit dans Jean 10, verset 7, la porte qui mène au pâturage de la vie en abondance. Et il y a une magnifique histoire dans la Bible qui illustre bien cela. Le fils prodigue, le premier fils avait un désir d'indépendance. Il a cru être libre, et au final, il s'est retrouvé comme esclave. Esclave de la situation dans laquelle il est tombé. Il a compris qu'il valait mieux dépendre de son père pour être vraiment libre. Et avec Dieu, c'est pareil. La dépendance à Dieu est bonne. Et elle ne signifie pas être esclave de Dieu. Et Jésus le confirme avec vraiment des paroles merveilleuses en Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Même si nous souhaitions être les esclaves de Dieu, lui ne le voudrait pas. Comme dans l'histoire du fils prodigue. Dieu ne veut pas des marionnettes. Dieu ne veut pas des moutons de Panurge qui le suivraient bêtement ou lui obéiraient par peur. Parce qu'il est possible d'obéir à une règle dans la peur des conséquences, dans la peur du gendarme. Alors qu'obéir peut aussi être un choix lorsqu'on comprend la règle, son sens, son utilité, le bien qui en découle, ou la confiance qu'on a, surtout dans celui qui la pose, cette bonne règle. Et cette idée est justement aussi confirmée dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Lorsqu'on est conduit par l'esprit et non par la peur, notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. Tu n'es plus esclave, mais ami de Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave, mais enfant de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, voilà ce que ça implique aussi, être enfant de Dieu. Et il y a encore un autre texte, qui est un texte jumeau à notre texte de Romains 8, et qui reprend justement bien cette idée. Et je lis à nouveau, cette fois-ci toujours dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 4. Et vous allez retrouver vraiment des éléments de Romains 8. Voici ce que je veux dire, Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. On retrouve vraiment les mêmes éléments que nous avons lus avant dans Romains 8. Nous avons reçu un esprit d'adoption. La loi romaine rendait l'adoption très difficile. Mais une fois que l'adoption était faite, cette adoption devenait permanente. Et un enfant naturel pouvait être déshérité à l'époque, mais plus un enfant adoptif. L'adoption est un lien très fort d'amour et de filiation. Mais quelque part, cela rappelle aussi parfois une autre réalité. Dieu n'est pas le père de tous les hommes. Il est le créateur de tous les hommes. Mais il est le père uniquement de ceux qui sont conduits par son esprit. Au départ, nous ne sommes pas ses enfants. Nous avons dû être adoptés par lui. Cela signifie aussi qu'en Dieu, nous avons une nouvelle identité. Celle d'être enfant de Dieu. Et cela malgré notre passé, malgré notre péché, malgré ce que nous étions, malgré notre désir d'indépendance aussi. La relation entre Dieu et nous, ses enfants, est comme une relation de parent à enfant. Et là encore, il y aurait un risque d'interpréter mal cette idée. Et justement, peut-être dans un sens infantilisant. C'est vrai, nous n'avons pas envie d'être traités comme des petits-enfants toute notre vie. L'apôtre Paul a justement vu l'obstacle et le prévient en disant « L'Esprit Saint ne vous rend pas esclave, mais enfant de Dieu. » Ce qui signifie que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la servitude, mais justement dans une relation d'affection. Dans aucune autre religion, aucune autre, Dieu n'est appelé Père. Leurs adeptes de ces religions ne peuvent pas le connaître personnellement et pleinement parce qu'ils ne le connaissent pas comme Père. Dieu est Saint. Tout-puissant, omniscient, mais également plus que cela, il est notre Père débordant d'amour et de tendresse. Alors juste un exemple, est-ce que vous connaissez tous les titres, ou quelques titres du prince Albert II de Monaco ? En voici quelques-uns. Prince souverain de Monaco, duc de Valentinois, duc de Mazarin, duc de Mayenne, sire de Matignon, baron de Saint-Lô, marquis de Chilly-Mazarin, comte de Longjumeau, et plus étonnant, comte de Ferrette, de Belfort, de Tann et de Rosemont, baron d'Alkirch, seigneur d'Issenheim. Et la liste n'est pas finie. Mais... pour les enfants du prince Albert, c'est probablement papa. De la même manière, nous pouvons appeler Dieu Père, Abba, en plus de tous les autres noms de Dieu qu'on trouve en hébreu dans la Bible. Et le mot Abba n'est pas utilisé dans le judaïsme pour s'adresser à Dieu. Il n'était pas utilisé à l'époque. C'était le mot, tout simplement, que les enfants utilisaient pour appeler leur père dans l'intimité familiale. Mais Jésus, lui, l'a utilisé lorsqu'il priait son père. Jésus nous a appris à appeler Dieu papa. Et justement, le Seigneur nous vient à notre secours pour cela. C'est l'Esprit Saint, on l'a lu, lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par des raisonnements intellectuels. On ne peut pas convaincre quelqu'un de cela. Ça ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne peut être qu'une conviction qui a une origine spirituelle. C'est l'Esprit qui est le sceau en nous, le cachet qui authentifie notre adoption à Dieu, notre appartenance à Dieu. Et aussi parfois pour le rappeler aussi à l'adversaire et au mal qui ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, comme on peut le lire à la fin de ce chapitre 8 de Romains. Être conduit par l'Esprit de Dieu, voilà ce que s'applique aussi, être des héritiers. Mais être héritier de quoi ? Notre héritage, c'est la vie éternelle. Ça peut paraître évident, mais cet héritage de la vie éternelle est aussi associé, on l'a lu, à deux réalités, la souffrance et la gloire. Et si la gloire ne nous dérange pas, bien au contraire, de la gloire, ça on en veut bien. Par contre, la souffrance, c'est un autre problème. Généralement, on n'en veut pas, et c'est bien normal. Et je crois qu'ici, il ne s'agit pas de rechercher des situations problématiques qui pourraient nous causer la souffrance et de se plaire justement dans un rôle de victime. Mais l'Évangile nous avertit. Être chrétien est synonyme d'épreuve, de combat spirituel, de persécution parfois. Être disciple de Christ, c'est accepter de se charger de sa croix. Ce n'est pas un chemin facile. Et Jésus nous a montré l'exemple. À de nombreuses reprises, pour parler de sa mort, il est dit qu'il a été glorifié. Jésus fut glorifié dans ses souffrances. Rien à voir avec la gloire des hommes, on en a un peu parlé un peu avant dans le début du culte, qui elle écrase et qui oppresse. Cette souffrance, nous ne devons pas la rechercher, mais nous pouvons nous réjouir dans la souffrance, parce que les épreuves, les difficultés ne dureront pas éternellement. Quand nous serons réunis auprès de Dieu, elles s'arrêteront. Nous pouvons nous réjouir dans la souffrance tant que c'est avec Christ et pour Christ que nous souffrons. Alors pour confirmer cette idée et en guise de conclusion, j'aimerais vous laisser ces paroles, cette fois-ci de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et il blasphème l'Esprit tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Ce petit texte que nous avons lu ce matin dans Romains 8 ne nous donne qu'un petit aspect de ce que représente une vie conduite par l'Esprit Saint. La Bible nous indique beaucoup d'autres aspects encore. En voilà donc un petit échantillon ce matin. Mais n'ayons donc pas peur. Acceptons de devenir enfants de Dieu et faisons-lui confiance. Laissons l'Esprit de Dieu justement nous conduire et vivons cette vraie liberté pleinement attachée et unie à Dieu. Et réjouissons-nous malgré les épreuves que nous vivons et rendons-lui gloire en toutes choses. Je vous invite à prier. Seigneur, ta présence en nous par l'Esprit Saint nous dépasse. Nous sommes parfois troublés et nous ne savons pas tout expliquer. Mais merci parce que ta parole nous éclaire. Merci pour cette promesse de liberté qui n'est pas l'illusion de la liberté que le monde propose, mais qui est celle de la bonne dépendance à toi. Merci de nous avoir adoptés comme tes enfants. Merci parce que nous pouvons t'appeler, crier à toi, Abba Père. Aide-nous à vivre cette liberté, que nous puissions continuer à marcher par l'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint. À ta suite. Amen.